Chapitre 12. Léger frisson. On aurait parfois envie de prendre Hervé Leclerc par la main pour lui donner un peu d'entrain, pour le motiver à se lever, malgré un petit déjeuner familial dont il n'attend plus rien, pour lui ouvrir les yeux sur l'utilité de son métier, là où il ne voit plus que des récidivistes qui n'en ont rien à faire de leur condamnation, même quand il s'agit de prison. Alors à quoi bon ? Lui éviter d'emprunter les transports en commun alors qu'il est déjà en retard ? Oui, ce lundi matin, on aurait envie de le prendre par la main et de lui dire qu'il y aura des jours meilleurs. Hervé s'est levé parce qu'il n'a pas le choix. Il salue vaguement sa greffière, déjà à son poste, s'installe à son bureau et constate qu'une lettre l'attend, plus grande qu'à l'accoutumée. La même jolie écriture d'Anaël. Enfin une bonne nouvelle pour oublier le reste. D'autant que l'enveloppe est là, sans que Jocelyne ait souligné le fait d'une remarque déplacée. Elle a bien compris la mise au point récente. Ou alors elle a changé de stratégie pour endormir le poisson et mieux le surveiller afin de le ferrer le moment venu. Hervé Leclerc, procureur de la République, se demande en la décachetant s'il y a quelque chose de mal à échanger des lettres avec une jeune femme qu'il a eue en cour. En soi, il n'y a pas de mal. En revanche, l'attente à peine dissimulée du facteur n'est pas anodine, et il sait que cette correspondance débutante n'est pas vraiment innocente. Il pourrait n'y voir qu'un échange cordial d'informations techniques, mais autre chose s'est immiscée dans ces quelques lettres, autant les siennes que celles de son ancienne étudiante. Une complicité ? Leur plaisir commun de l'écriture ? Un jeu ? Il se sent presque comme le gamin qui pioche dans le bocal à bonbons quand l'épicière a le dos tourné. Une petite gourmandise clandestine. Qui pourrait le lui reprocher, à part Jocelyne ? L'épicière avec son œil dans le dos ? Et si une relation s'installait sans arrière-pensée ? Juste une jolie rencontre, enrichissante et joyeuse. Célesta, vendredi 4 mars. Monsieur Leclerc, ce serait un comble que vous me dérangiez. J'apprécie de vous lire, aussi de vous écrire. Ce sont vos questions qui m'ont un peu froissée. J'avais besoin d'y réfléchir. Non qu'elles soient trop directes ou indiscrètes, mais je n'ai pas forcément le cœur à y répondre. Et puis j'ai été bien occupée durant la semaine à visiter une petite maison et à faire quelques démarches pour voir si elle pourrait devenir la mienne. Je vous en parlerai. Je suis tombée sous le charme et je crois que dans ces cas-là, il ne faut pas laisser passer l'occasion. J'ai réfléchi à cette histoire de photo. Et je comprends votre désarroi à l'idée de ne pas savoir à quoi je ressemble. Mais est-ce vraiment nécessaire? J'ai donc décidé de vous envoyer une photo de ma promotion. Peut-être me reconnaîtrez-vous? Concernant la juridiction française, je n'ai pour l'instant pas d'autres questions, ce qui n'est évidemment pas définitif. Il faut que j'avance dans l'écriture avant de savoir si je serai confrontée à d'autres doutes. Serez-vous encore là quand ce sera le cas? À bientôt. Anaël Desmoulins. PS, pardon de vous avoir fait attendre. Hervé, partagé entre la joie et l'agacement, replie la lettre, saisit son bloc de correspondance et commence à griffonner nerveusement une réponse. Il a peu de temps avant de devoir filer en audience. Il se contentera des couloirs à arpenter pour se remémorer les affaires qu'il doit traiter ce matin. Et puis, Jocelyne sera là pour le seconder. Elle sait si bien le faire. Strasbourg, lundi 7 mars. Chère Anaël, vous êtes cruelle avec moi. Comment voulez-vous que je vous reconnaisse sur une photo de promo où vous êtes 47 jeunes femmes? Oui, j'ai compté pour argumenter mon propos avec précision. Des formations professionnelles. Vous auriez au moins pu mettre une petite gommette ou dessiner une auréole au-dessus de votre tête. Vous êtes cruelle. Parce que je vais devoir attendre votre réponse. Et je suis d'un naturel impatient. Où êtes-vous? Quant à mes questions dérangeantes, je vous prie de m'en excuser. Il m'était difficile de deviner que vous demandez où vous exercez votre métier de pharmacienne puisse vous froisser. Dois-je vous prêter un fer à repasser pour réparer mon impair? Ma femme en a un très bon. Un des cadeaux de fête des mères qu'elle m'avait demandé. J'aurais préféré qu'elle ait envie d'un baptême en parapente. Car elle ne supporte pas que je parte au bureau avec le moindre pli à ma chemise. Je lui explique qu'après 5 minutes en voiture, les plis sont revenus, mais elle soutient mordicus qu'on arrive à faire la différence entre un pli de séchage et un pli d'usage, et qu'un procureur ne peut pas se permettre de se présenter au tribunal avec une chemise mal repassée. Faites-vous la différence entre un pli de séchage et un pli d'usage ? De grâce, répondez-moi que non. Excusez-moi encore de vous avoir chiffonné. Avec toute mon amitié. Hervé Leclerc, votre anti-pli. PS 1. Vous êtes toutes pardonnées pour l'attente. PS 2. Je ne sais pas quoi faire de vos courriers. Je veux les garder, évidemment, mais ma greffière est une fouineuse de première. Pire qu'un cochon à truffes. Et comme en plus elle vous a d'emblée collé l'étiquette d'admiratrice à mon égard, elle est à l'affût. La patte avant à 90 degrés. La dite truffe, une autre, au vent. Si je les emmène dans ma sacoche, c'est ma femme qui risque de tomber dessus. Et elle se demanderait ce que ce genre de courrier fait dans une sacoche de procureur, avec en plus une photo où je n'aurais pas manqué de dessiner une auréole dès que vous m'aurez dit où. Une idée ? PS3, on frôle le record. Je serai là pour toutes vos questions et même pour vos non-réponses. Hervé colle le rabat, écrit l'adresse de la jeune femme, qu'il connaît désormais par cœur, et cherche un timbre dans le premier tiroir de son bureau. Il ira lui-même à la poste. Il aime de temps en temps éprouver ce petit frisson de plaisir quand, une fois l'enveloppe lâchée dans la fente de la boîte, plus rien ne peut interrompre sa route vers le destinataire. Jocelyne le regarde s'éloigner, le courrier à la main. Il vient à peine de recevoir cette lettre et il a déjà répondu. Ce petit jeu ne lui plaît pas du tout. Elle est d'autant plus contrariée qu'elle n'a trouvé aucun élément concernant la jeune pharmacienne. Rien. Ni dans les fichiers des diplômés, ni sur les réseaux sociaux. Pas de casier judiciaire, pas de numéro de sirette. Aucune information. Tant pis, elle fera autrement. Aux grands maux, les grands remèdes, puisqu'aux siens, nul antidote.